Cruel FM.
Et Truelle FM, c'est avec Aurélie et Mathéo. Salut tous les deux.
Salut.
Bon, bah aujourd'hui, on se retrouve, voilà, après une semaine sans moi, si vous avez manqué. Non, c'est pas vrai. tout de suite, donc aujourd'hui, on va faire l'archéologie, les maladies et le handicap. Donc, je vais vous laisser avec Aurélie pour un début et puis je ferai un petit peu la fin.
Donc, les maladies et le handicap, c'est important dans le registre archéologique parce que ça permet de connaître les taux de mortalité, les maladies qu'on a connues. Ça permet aussi d'apprendre les soins et la gestion des malades et des handicapés. Donc en France, on a une archéologue qui est très spécialisée, qui a un peu inventé le domaine, c'est Valérie Delattre. Donc elle souligne beaucoup le fait que les handicapés sont gérés, qu'on les aide et qu'ils ne sont pas exclus comme ça pourrait arriver aujourd'hui dans certains cas. Donc en archéo, on va retrouver des restes de prothèses. On peut voir les amputations sur les squelettes. On peut retrouver par exemple des restes de béquilles, donc on va trouver les cerclages en métal, les petits clous qu'on peut retrouver. Et ça existe depuis au moins la proto-histoire, donc entre la préhistoire et l'antiquité. On peut avoir des prothèses plus ou moins développées par exemple, donc on peut avoir juste une petite jambe de bois. Et on peut avoir des prothèses en métal, donc il y a l'exemple du chevalier Hans von Mutelsen, désolé pour l'accent. En fait, c'est tout un bras qui est fait un peu comme en armure. Et donc, on voit en plus la sophistication qui est liée à l'esthétique. Aujourd'hui, quand on se fait une fracture, par exemple, on va se plâtrer, ça va se résorber et ça va aller bien. Si on prend des périodes plus anciennes, la fracture, ça peut amener au handicap à vie. On ne pourra plus servir de sa jambe, de son bras, n'importe. Et donc, on peut subir des chirurgies. Donc ça nécessite le fait qu'en fait on est des spécialistes de la chirurgie et des connaissances en pharmacopée parce que faut les soins à la suite. Et puis quand on vous ampute, il faut être un petit peu quand même dans un autre état parce que sinon on le sent bien passer. Par exemple, on a des exemples de trépanation, donc quand on fait un trou dans le crâne pour pouvoir enlever la pression au niveau du cerveau. On sait que c'est une chirurgie qui est connue depuis le néolithique. En Alsace, on a trouvé des crânes, alors je vais vous épargner le nom parce que ça va être du yaourt, qui date d'environ moins 5000, et donc on a des traces d'actes chirurgicaux au niveau du front, donc ça, c'est une période qui est quand même très ancienne. Un autre système d'aide, comme j'ai déjà parlé des béquilles ou des prothèses tout à l'heure, on a un exemple d'une femme gauloise qui est atteinte de myosite. Donc en fait, c'est des déformations osseuses et elle a été enterrée avec un corsage en métal. Donc c'est une femme qui est assez vieille, donc on peut supposer qu'elle a été en fait prise en charge toute sa vie par la communauté. Donc ça nécessite de l'aider à se déplacer, à se nourrir, pas forcément travailler. Donc c'est vraiment... Il n'y a pas d'exclusion des personnes parce qu'elles ont un handicap ou une maladie. Donc je vous laisse avec Mathéo maintenant.
Voilà, donc comme l'a dit Aurélie, donc avec la survie des patients, ça sous-entend donc une prise en charge par une entité ou par la communauté. On connaît par exemple des personnes très âgées ou des personnes en situation de handicap qui sont prises en charge par leur communauté. On a des registres depuis la préhistoire. Et donc plus largement, ces études-là, en fait, donc l'étude sur les maladies et le handicap, en fait, elles permettent d'en apprendre sur l'état de santé des populations passées, sur leur alimentation, savoir comment du coup elles se soignent. Et en fait, parfois, on va avoir comme des crises, des crises de maladies. Donc, par exemple, on va avoir la peste. En fait, ça, c'est très très connu dans le registre historique parce qu'on a des récits et voilà. Et au niveau de l'archéologie, en fait, on peut aussi le voir. On peut voir un cas relativement connu. Donc, c'est là, il y a une tombe d'enfant qui a été découverte dans la nécropole de Lugnano in Teverina en Italie. Et en fait, donc, elle date du 5e siècle de notre ère. Et dedans, donc, il y avait un corps d'enfant qui avait été inhumé avec une pierre dans la bouche. Et en fait, c'est une pratique qui est assez courante. L'enfant était atteint de malaria. Et donc, cette pierre dans la bouche, elle servait plus ou moins à s'assurer que l'enfant n'allait pas se réveiller des morts et n'allait pas propager, en fait, la maladie. Et donc cette maladie, en fait, enfin la malaria, du coup, elle a été détectée par en fait un abcès dentaire que l'enfant avait. Et en fait, c'est un des signes de la malaria. Et donc au Moyen Âge, comme je disais, donc on a un registre archéologique assez varié et fourni au niveau des maladies. Donc on a les famines, on a les épidémies, puis comme l'a dit Aurélie, on a aussi du coup pas mal de traces au niveau du handicap. Et au Moyen Âge, donc au milieu du VIe siècle, pendant les pestes justiniennes. Je vous rappelle juste, Justinien, c'est l'empereur romain d'Orient. Et en fait, il a dû faire face à de nombreuses vagues de peste. Et par exemple, on peut attester ces vagues par l'archéozoologie. Donc c'est l'archéologie qui utilise les restes d'animaux pour justement étudier des faits, par exemple de la boucherie. Enfin voilà, et on peut aussi utiliser pour les épidémies. Et en fait, si on croise les sites où on a des sépultures de pestiférés, en fait, on voit qu'il y a une corrélation avec pas mal d'ossements de rats. Et en fait, étant donné qu'on sait en fait que les rats ont apporté la peste, autant historiquement qu'archéologiquement, en fait, on peut tracer des lignes et voir en fait que chaque site, en fait, ça se propage de part en part. Et en fait, on voit que à la fois les restes de rats et à la fois les sites où il y a eu les plus grands épisodes de peste se calent sur les voies romaines. Donc on peut aussi supposer que les rats accompagnent les humains sur un trajet particulier et donc de part en part, ils distribuent des épidémies comme ça. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour par rapport aux épidémies au handicap. Et je vous relaisse avec Aurélie, je crois qu'elle a deux petites choses à vous dire.
Alors c'était juste pour faire un peu notre pub avec l'association, on fait une conférence jeudi à 17h30 en amphi 3 sur l'archéogaming. Donc du coup l'archéogaming ça va être tout ce qui est les représentations de l'archéologie dans les jeux vidéo, mais c'est aussi en fait faire de l'archéologie des jeux vidéo. Donc un exemple, on va citer Zelda. Il y a des gens qui en fait étudient les processus dans les ruines dans Zelda, les processus de destruction des temples, etc. Et en fait, dans la démarche, c'est archéologique. Il y a du data mining aussi.
C'est ça, voilà. En fait, en gros, on va prendre le code source du jeu et on va voir que à telle étape, il y a tant de personnes qui ont travaillé sur cette étape du jeu. Et donc, ça va nous permettre aussi de comprendre un peu qui sont les acteurs de chaque particule du jeu. Et donc, on va pouvoir quantifier ça d'une façon un peu stratigraphique et du coup d'une notion assez archéologique. On a ça, bien sûr, on a aussi du coup le rétro gaming, évidemment. Il y a des fouilles, par exemple, qui ont été faites dans un désert pour trouver des vieilles cartouches du jeu E.T.
Sur Atari, ouais.
Voilà, sur Atari, c'est ça. Et du coup, ça avait fait grand bruit parce qu'en fait, on se demande, c'est de l'archéologie contemporaine. C'est aujourd'hui, on cherche des restes et en fait, il y a une vraie fouille, comme n'importe quelle fouille, pour trouver des dinosaures, c'est le même principe, sauf que là, c'est avec des jeux vidéo. Donc voilà, j'espère que vous viendrez nombreux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite chose à dire? Si jeudi, de 10h30 à 15h30, il y a un marché de Noël qui est organisé sous l'allée couverte, donc là où il y a les...
Non, c'est à l'abbaye, à Rigoberta Menchu.
Ah, ça a changé. Bon, pardon. Je dis des bêtises. C'est à Rigoberta, voilà. Donc, c'est fait par les assos de la fac. C'est super sympa, convivial. On va vendre des petites choses sucrées. Et puis, venez nombreux. Voilà, ça va être super cool.
Eh bien, merci à tous les deux. Voilà, un beau programme. Et on vous retrouve... pas la semaine prochaine, on vous retrouve à la rentrée, ce sera le 9 janvier car on reprend le 3 pour un prochain Truelle FM. Après il y a le marathon radio.
Oui, on se retrouve vendredi normalement.
On se retrouve bien avant ça, voilà.
C'est ça, pendant une heure, parler d'archéo.
Alors justement, on peut faire un petit teaser sur ce qui nous attend. Donc c'est à quelle heure et qu'est-ce que vous nous réservez?
Alors normalement c'est de 16 à 17, on a des petites complications mais on va voir ça. Normalement on est censé parler de l'archéologie et... de la relation avec la pop culture. Donc à la fois, du coup, on va peut-être un petit peu parler dans les jeux vidéo, mais je pense qu'on va parler aussi de la bande dessinée. Je sais pas, Aurélie, peut-être que t'as des petits trucs.
Dans les films.
Dans les films.
Même dans la représentation qu'on a et qu'on nous donne de l'archéologie.
C'est ça. Et normalement, on fait ça en partenariat avec notre professeur de proto-histoire méditerranéenne, Monsieur Alexis Gorg. Mais on sait pas. Normalement, c'est bon, mais on va lui redemander. Voilà. Mais normalement, il sera là. Et au pire, s'il est pas là, on trouvera des gens passionnés comme nous pour parler de pop culture et d'archéologie.